Je me suis un peu entraîné plus que d'habitude, mais pas autant qu'il l'aurait fallu. Et surtout, j'arrive là-bas avec la peur au ventre, c'est de. J'avais tellement le reportage dans le truc, tu vois, je connaissais pas du tout l'endroit. Quand je tapais sur Google l'endroit où c'était, ça avait l'air d'être tellement paumé, tu sais, que t'arrives dans un endroit du fin fond du Tennessee, en pleine campagne, à l'entrée du parc, je me rappelle, à la voiture de location, j'étais avec Chris, ma compagne, et on se demandait vraiment où on était, quoi, où tu débarques. Je me rappelais toute ma vie de l'entrée dans le parc la première fois que j'y suis allé. Je flippais tellement, on va dire, où j'avais tellement peur, tu sais, de ce qui pouvait arriver, de ce qui allait arriver. Et là, tu dors presque pas, tu sais, parce que tu sais pas l'heure de départ. Bon, entre minuit et midi, hein. Donc, la veille, tu vas au lit, quand tu peux, vers 8h, 9h, c'est dès que ça commence à être un peu la nuit arrivée. Mais dans ta voiture, là, moi, j'étais dans la voiture, et ben, t'arrives pas à dormir, quoi. Tu te retournes et tout, tu te dis, bon, faut que t'entendes la conque, il faut pas que tu loupes ça, t'as ce mystère, t'as vraiment une chape sur toi. C'était un souvenir incroyable par rapport à ça. Alors, c'est que des montées et descentes. Il y a quasi pas de plat. Hein. Et la plupart des bosses, c'est des montées, c'est genre comme des kilomètres verticaux. C'est-à-dire, tu vas droit dans la pente et sur des trucs de 600-700 mètres de dénivelé. Et c'est que des accumulations comme ça de montées et de descentes. Et quand tu descends, c'est pareil, c'est droit... pas hors sentier, quoi, droit. Alors, c'est souvent des feuilles mouillées, des feuilles, tu sais, de mortes, des branchages morts, des ronces. Je me dis pas que c'est interminable, je me dis, comme tout le monde presque, hein, sauf ceux qui y arrivent, mais je me dis, il faut aller le plus loin possible. Et l'objectif, c'est de faire mieux et de les fameux deux tours pour repartir dans le troisième, la fun run, tu vois, c'est des trucs que tu te dis, même si c'est très très dur, mais tu te dis, au moins, m'orienter vers ça. Et donc, tu ne conçois pas la Barclay comme quelque chose que tu vas pas terminer. Tu le conçois comme quelque chose où tu vas essayer de te dépasser et d'aller le plus loin que tu peux.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, notez et rédigez un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. C'est aujourd'hui un épisode exceptionnel que je vous propose de vivre avec une plongée en apnée dans l'une des courses les plus fascinantes qui soit et qui suscite beaucoup de mystères, nourrit beaucoup de fantasmes et provoque même parfois l'incompréhension. Je veux bien sûr parler de la Barclay Marathon. Cela faisait un très long moment que je tenais à partager avec vous cette course, si l'on peut ici parler véritablement de course. Vous l'entendrez à travers les mots de mon invité Rémi Jégard, qui a eu le privilège de prendre 5 fois le départ de cette aventure hors norme. La Barclay ne ressemble à aucune autre course. Il va nous en faire vivre les moindres détails et nous en dire plus sur cette course encore aujourd'hui si mystérieuse. Rémi va également partager avec nous la fascination que peut exercer sur lui cette course et les raisons pour lesquelles chaque dernier week-end de mars, dans une forêt perdue au milieu du Tennessee, 40 coureuses et coureurs se lancent tête baissée dans un défi qui relève presque de l'inhumain quand on sait qu'à ce jour, seules 15 personnes ont réussi à finir la Barclay dans son intégralité. Préparez-vous à vivre un grand moment d'aventure au cœur de ce que les parcs américains ont de plus hostile à proposer aux passionnés de course à pied que nous sommes. Mais je ne vous en dis pas plus. Rémi va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Barclay cœur à vif.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Rémi, je suis ravi de te recevoir dans ce 35e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci de m'accueillir.
C'était un grand plaisir. Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, Rémi ?
Oui, bien sûr. Alors Rémi Jégard, 50 ans, j'habite du côté de Toulouse, un peu plus haut que Toulouse. Et bon, évidemment, trailer, hein, coureur depuis très longtemps. Et je m'occupe aussi d'une revue qui s'appelle Running Mag et du site internet qui va avec runningmag.fr.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado? Quel était ton sport de prédilection dans tes plus jeunes années?
Alors, tout à fait au début, quand on va dire, d'entrée, quoi, 10, 12 ans, j'ai fait du vélo. du cyclisme, pas trop mauvais niveau, on va dire, hein, on va rester humble.
Vice-champion d'Aquitaine quand même et qualifié pour les France, c'est bien.
Voilà, exactement. Ouais, j'étais pas trop mauvais en jeune jusqu'en junior. Et après, ben, la course à pied est venue pour me préparer l'hiver pour le vélo. En fait, l'hiver, la saison de vélo s'arrêtait très tôt quand j'étais jeune. Et j'ai fait les crosses. J'ai commencé à faire des crosses l'hiver de course à pied pour maintenir la forme pour le vélo. Et après, voilà, ça m'a plus quitté, quoi.
La mouche t'a piqué. Et donc, c'est pas finalement un choix délibéré. C'était plutôt dans le cadre d'une préparation pour d'autres sports que vraiment un intérêt marqué pour la course à pied en elle-même.
Voilà, tout à fait au début quand j'étais jeune, c'était ça, c'est-à-dire c'était pour combler quelques mois qui étaient un peu vides dans la saison de vélo. Après, bon, bah, y a eu une coupure quand même quand j'ai eu mon premier boulot. Je suis allé travailler à l'île de la Réunion comme journaliste. Là, j'ai fait une coupure, disons, de 3-4 ans, 3 ans de sport carrément. Et après, voyant que quand même ça me manquait énormément là-bas à la Réunion, je me suis mis à courir et ça a coïncidé avec le boom des courses de montagne là-bas. Quoi. Ça a commencé à naître là-bas, les courses de montagne. Et j'étais au bon moment, au bon endroit, et donc je me suis mis tout de suite.
C'est ce que j'allais dire. Il y a pire comme endroit pour traîner ses guêtres et démarrer, se lancer un peu plus activement dans la trail.
Ah oui, c'est le paradis là-bas. J'ai jamais trouvé, pourtant j'ai pas mal baroudé de partout, c'est après. J'ai jamais trouvé un endroit qui allie autant de caractéristiques très bonnes pour la pratique du trail, de la course à pied. C'est vraiment le cire de ma fat, pour ne citer que cet endroit est extraordinaire pour pratiquer le trail. Quoi.
Tu as un très solide palmarès en trail. Depuis, tu as fait pas mal d'épreuves dans lesquelles tu as très bien performé. Pour citer quelques-unes de tes références, tu as notamment remporté plusieurs fois le Scale Trail, mais aussi le semi-raid de la Réunion, le challenge des trails du Sud-Ouest. Tu as également fini 8e au Templier et à l'Aubrac. Bref, la liste est encore longue. Hormis la Barclay, dont on va avoir largement l'occasion de parler plus tard dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments charnières dans ta vie sportive jusqu'ici? Ça peut être une course, une rencontre, un moment qui peut-être a fait basculer ta vie, ou en tout cas qui ont marqué au fer rouge ta vie sportive et puis ta vie peut-être même plus générale. Quels ont été les grands moments de ta vie sportive jusqu'ici? Ceux que tu retiens là aujourd'hui qui te sont particulièrement chers?
Oui, alors il y a ceux que je retiens qui m'ont marqué. Après, de là à dire que ça a fait basculer, tu vois, même ma vie, bon, c'est toute une progression. J'ai jamais arrêté vraiment quand je m'y suis remis à la Réunion. C'était, tu vois, j'ai vraiment recommencé 98 là-bas à la Réunion 98, même un peu plus tôt. Attends, pour pas tout mélanger, ouais, j'ai dû faire le Grand Raid 89, la première édition. Mais maintenant avec du recul, ça m'a marqué. Mais sur le coup, disons que c'était une course comme une aventure. Donc après, les choses qui m'ont marqué, c'était un peu plus tard, quand je suis rentré en métropole, du coup en France. Mais là, je dirais, tu as cité le Scale Trail. Ça m'a marqué parce que pour moi, ça fait référence au tout début vraiment du trail en France. Ça a vraiment tué quand je l'ai gagné plusieurs fois d'affilée. Et c'était dans les années 2001, 2002, 2003. Et ça correspondait à une époque où le trail n'était pas aussi connu, quoi. C'était les prémices, quoi, en fait, les tout débuts. Et c'était une ambiance vraiment extraordinaire. C'était en binôme à deux, le Scale. Et je me rappelle des ambiances qu'on avait entre deux étapes, parce qu'il y avait deux étapes à chaque fois. Le soir, on se retrouvait dans un petit endroit là-bas, du côté des adultes, après de Saint-Étienne-de-Baïgorée. Et ça m'a marqué, par contre. Ça a changé après, un peu ma vie, hein, parce que là, on s'est fait des très bons amis. Ben, le coureur Claude Esco, avec qui j'étais à l'époque, ben, on est devenus super potes, tu vois, on a fait plusieurs fois d'affilée. Et ça a été vraiment, un souvenir marquant, à la fois sportif, à la fois, de vie, quoi.
Je devais la faire l'année dernière, figure-toi, et elle a été annulée, puis à nouveau annulée cette année. C'était un peu ma réjouissance, ça tombait pile le week-end de mon anniversaire, et voilà, et j'ai pas pu y participer. Ouais, et j'aurais vraiment bien aimé y aller en binôme et vivre ce truc-là. Ça doit être une course,
c'est assez incroyable. Unique comme course, comme ambiance, comme les ravitaux sont extraordinaires. C'est, alors après, c'est vrai qu'en trail, on parle beaucoup de manger, mais les ravitaux sont fabuleux avec des produits du terroir, tu sais, du jambon, du fromage, tout de là-bas.
Ils savent faire.
Et après, tu es avec quelqu'un tout le temps, donc tu étais obligé de partager, de t'aider, et c'est quelque chose de bon. Alors après, c'est pas unique parce que maintenant ça a été pas mal repris, on peut en trouver d'autres, mais ça garde un côté un peu authentique, quoi. C'est tous ceux qui sont allés, mais tu sais, dans ton dernier épisode tu t'es interrogé Nahu, elle passera, Et je pense qu'il a dû garder aussi un extraordinaire souvenir de cette course.
Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection, Rémi ?
Ben là aussi, c'est en évolution, on va dire. Moi j'ai toujours bien aimé, alors en performance pure, on va dire, hein, ce qui m'a un peu passé, parce qu'avec l'âge, c'est un peu plus dur. Mais en performance pure, ben, j'aimais bien moi tout ce qui était jusqu'à 40, 50, tu vois. J'aimais bien, par exemple, à l'époque, les Templiers de l'époque, quand ils faisaient 67. Mm-hmm. Parce que pour moi, j'arrivais pile poil, comme c'était pas... Bon, je te parle toujours de la même période, mais c'était les années 2000, c'était pas encore très développé, donc... On avait beaucoup cette référence au marathon, c'est les 42 kilomètres. Et quand tu te préparais, que tu étais bien pour un marathon, t'arrivais à toujours à tenir 40, 50 sur un trail, tu avais l'endurance. Et pour moi, ça a été une belle distance, quoi. Après, maintenant, j'ai essayé parce qu'on va parler de la Barclay, mais depuis les préparations sur les courses comme la Barclay, j'ai essayé de passer un peu un stade pour essayer de faire un peu plus long, on va dire, voire beaucoup plus long. Et ça a été une période charnière, tu vois. Moi, mais c'est quand même quelque chose d'assez récent, tu vois. C'est plutôt déjà 2000, pour moi, 2012, 2013, 2014.
Quels sont aujourd'hui tes principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer ? Est-ce que l'idée, c'est de partir à l'aventure, de refaire des courses que tu chéris et que tu aimes bien ? C'est un prétexte pour voyager, parcourir le monde à l'époque où c'était plus facilement faisable et avant que ça le redevienne ? Qu'est-ce qui est important pour toi dans les courses que tu choisis aujourd'hui ?
Oui, alors il y a deux façons de les choisir, je dirais. Il y en a une plus liée au côté petite course, j'appelle ça petite course, mais bon, c'est petite course authentique, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais tu y vas plus pour découvrir le parcours, parler avec l'organisateur, retrouver des amis, tu sais, autour de la course. Donc c'est peut-être moins lié à la performance, moins stressant. Et c'est aussi, bon, en fait, pour être honnête, c'est aussi lié à mon boulot, tu sais, de responsable de Running Mad, de journaliste. J'y vais, je mélange un peu le boulot avec le plaisir de courir. Et il y a un choix par rapport à ça, donc c'est très proche de là où je suis. C'est toujours dans la région. Et après, l'autre façon de choisir, c'est aussi lié à des courses qui sont un peu différentes, qui ont quelque chose qui fait que t'as envie de découvrir. T'sais, alors là, je parle d'un certain endroit, comme tu disais, de voyager, quand on pouvait encore le faire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la Barclay... bien avant qu'elle soit aussi connue que maintenant. Parce qu'il y avait, j'ai toujours eu le côté de m'intéresser à des courses un peu, qui ont quelque chose de différent, tu sais, qui a un petit côté énigmatique ou mystérieux.
Atypique, ouais.
Voilà. Et là, j'ai toujours essayé de rechercher. La recherche avant m'a toujours plu que de savoir pourquoi cette course, pourquoi elle était comme ça, pourquoi ça restait un peu secret. Ou alors, je parle pas que la Barclay forcément, tu sais, mais il y a des courses, par exemple, de la Badwater qui reste un peu mythique, tu sais, aux États-Unis. Il y a un côté très, très dur que pas beaucoup de gens terminent, tu sais. J'aimais le côté, le truc où tu te dis, tiens, il y a quelque chose parce que peu de gens la terminent, ça fait peur, tu vois. Il y a ce côté-là pour aller chercher autre chose, quoi. Un petit côté, alors il y a le dépassement de soi, mais il y a le côté aussi exotique, tu sais, d'aller chercher le truc que, pas beaucoup de monde, finalement, ils sont allés, quoi.
C'est l'heure de notre pause autodiagnostique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, mais aussi tes éventuels points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental ?
Oui, alors c'est toujours difficile de parler de soi comme ça. Point fort, ben, je dirais... je me blesse pas souvent. Ça fait très longtemps que je cours. Et je pense que je dois avoir... un bon physique, tu vois, au niveau physiologique, je vais être pas trop mal parce que depuis une quarantaine d'années, je me suis jamais vraiment blessé. Tu sais, il y a toujours des petits accros, tu chutes sur une course ou ça, mais deux jours après, c'est passé. J'ai jamais eu trop de blessures qui m'ont obligé à stopper vraiment. Et comme j'aime bien courir, tu sais, c'est vraiment ma base de vie, on va dire. Donc, si j'y vais pas quasi presque tous les jours depuis 40 ans. Je suis toujours un peu malheureux, donc ça m'a, tu vois, j'ai toujours réussi à pouvoir y aller. Disons que ça, c'est le point fort. Après, point faible, on va dire, peut-être, tu vois, je dirais, je suis pas fainéant, mais je fais pas tout comme il faut, comme il faudrait sur. Alors maintenant, avec l'âge, bon, c'est passé, c'est trop tard, on va dire, mais j'ai jamais trop fait attention, tu sais, à bien manger, à faire comme il faut, faire gaffe apprendre ce qu'il fallait, faire un peu de régime, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm.
C'est pas tout dans la préparation, c'est plus dans la discipline
voilà,
nutritive.
Moi, j'ai fait gaffe souvent, sur des périodes et tout, mais Bon, il y a toujours, voilà, j'ai jamais été vraiment le hyper pro dans les préparations. J'ai jamais eu de coach, tu vois. J'ai toujours fait de mon côté un peu au feeling.
Et c'est pareil dans tes entraînements. Est-ce que tu gères toi aussi à ta main ou est-ce que tu suis un protocole et t'es vraiment, c'est assez encadré et structuré dans tes préparations de course quand t'as des objectifs définis? Est-ce que tu mets en branle un chemin très structuré ou est-ce que pareil, tu te connais bien, tu te fais confiance et tu composes un peu en t'écoutant et sur la base de ton expérience aussi des nombreuses courses auxquelles tu as participé pour construire au mieux la préparation qui te va bien?
Oui, bah alors du coup, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'ai toujours fait un peu au feeling, avec des arrangements alors très personnels, mais liés à mon expérience, en fait. Hein, à force de faire des courses de telle distance et tout, tu te dis, bon voilà, tu sais que si tu vas mettre telle quantité de kilomètres sur la semaine, tu sais que tu vas t'affûter, que finalement au bout d'un moment tu vas être quand même vachement prêt, tu vois, si tu fais, je sais pas, un ou deux mois vraiment à fond sur un truc, ben tu sais que tu te reposes un peu et hop, tu vas être forme optimale le jour J. Donc ça c'est toujours bien réussi à le faire, sauf que ben y a quand même un facteur qui joue de plus en plus, c'est l'âge, quoi. Forcément, t'es obligé de mélanger avec la récupération, des coups de fatigue que t'avais pas forcément. Donc, tu t'adaptes par rapport à ça. Et il y a aussi, ben, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'allongement des distances, quoi. Moi, j'ai toujours fait jusqu'à, on va dire, aller 70 les Templiers. Après, j'ai essayé de faire un peu plus depuis une dizaine d'années. Donc, quand tu fais des 100 miles, quoi, des 160 km, c'est des grands raids et tout, t'as toujours des facteurs autres pour la préparation, quoi. T'as beau te préparer comme tu veux et tout, tu maîtrises pas tout totalement. Et ça reste, ben voilà, ça reste de l'ultra trail, quoi, tu vois. C'est des trucs que tu peux pas prévoir. Ben, on l'a bien vu dernièrement
avec François Den.
Je le cite, mais avec François Den
au Cap Vert,
sur le trek qui a craqué, qui a un coup de chaud. Tu vois, pourtant, c'est quand même le meilleur coureur d'ultra du monde presque. Donc, quand tu te dis qu'il peut lui aussi avoir un problème, c'est que tu as beau te connaître vachement bien, te préparer comme il faut, t'es jamais voilà, sur un ultra, tout peut arriver, quoi. C'est ce qui a fait d'ailleurs son charme, quoi.
Question très difficile. Est-ce que tu peux nous dire quel accomplissement tu trouves dans la course à pied? Donc, en une phrase, pourquoi tu cours, Rémi?
Ah, moi, alors vraiment, si on ne prend pas les compétitions et tout, moi, je cours pour le bien-être que ça te procure juste après, quoi. Tu sais qu'après, dans ta journée, tu sais, tu prends ta douche après la course. Alors, ça fait plus d'une phrase, mais tu prends ta douche, et là, à un moment donné, t'as un bien-être, tu te dis, ouais, c'est bon, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, et tu peux faire la journée, quoi. La journée commence, tu es bien, voilà. C'est pour ce côté bien-être, c'est la dose d'endorphine, comme on dit. Alors, je sais que tout le monde la connaît pas forcément, mais ça, c'est vraiment irremplaçable, et moi, c'est ce qui fait que je cours depuis tellement longtemps, quoi.
Tu es également journaliste sportif et créateur du magazine Running Mag, tu nous l'as dit. Est-ce que l'écriture, ça a été très tôt une vocation pour toi? Et est-ce que la course à pied, elle s'est très vite affirmée comme ta thématique d'écriture de cœur?
Oui, alors moi, y a deux questions dans une. Et ben, moi, j'ai beaucoup lu ben, très tôt, très jeune. J'ai adoré lire. Et donc, du coup, ben, tu lis, tu essaies d'écrire par rapport à ça. Et du coup... ben ouais, c'est devenu comme une évidence, tu vois, pour raconter un peu l'histoire, c'est quand j'étais à la fac de psycho, je cherchais un petit boulot et par hasard j'ai trouvé un boulot de pigiste. C'était à côté de Toulouse à l'époque. J'étais pas encore allé à la Réunion. Et j'ai trouvé un boulot de pigiste à la Dépêche du Midi. Et j'ai tout de suite écrit sur le sport, hein, très vite la course à pied d'ailleurs. Et les deux passions se sont liées. Tu vois, j'écrivais un peu sur le vélo au début, sur la course à pied, c'est des sports assez similaires au niveau journalistique dans les rubriques de sport. Et ça s'est mélangé tout de suite. Et c'est là où tu mélanges. Moi, j'ai mélangé deux passions, quoi. À la fois le côté écriture, puisque je lisais beaucoup, et à la fois après le côté course à pied qui est venu juste en même temps pratiquement.
C'est le bonheur, ça. C'est le combo parfait.
Exactement. Pour moi. Au niveau boulot, alors je me suis créé mon boulot, on va dire, hein, parce qu'après j'ai créé le magazine. Mais oui, pour moi, c'est je peux pas arriver mieux dans la vie. Ouais, je suis hyper heureux par rapport à ça.
Une belle leçon de bonheur. Tu as par ailleurs écrit différents ouvrages, et notamment le récent Histoire du Trail, qui, comme Course Épique à mal faire, s'intéresse à toutes les histoires du trail, en s'attachant avant tout à l'humain, dans ses fragilités comme dans ses forces. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce dernier livre que tu viens de sortir et de ce qu'il raconte et des histoires, enfin de l'état d'esprit en tout cas dans lequel toi tu l'as abordé, ce que tu as envie de partager avec cet ouvrage-là?
Oui, alors histoire du trail, c'est alors déjà l'idée je l'avais depuis pas mal de temps par le fait que j'étais à la première édition du Grand Raid à La Réunion, et après j'ai suivi par le travail et par la passion, j'ai suivi un peu toute l'évolution du trail. Donc je me suis dit un jour, tiens, quand même, il faudra raconter un peu tous les gens que j'ai croisés, en fait, des anciens champions, des champions de maintenant, j'ai couru avec eux, j'ai pas mal discuté, sympathisé. Donc je me suis dit, puis j'ai suivi aussi l'évolution de pas mal d'épreuves qui sont nées, qui ont continué, il y en a d'autres qui ont arrêté. Je me suis dit, il fallait le mettre sur papier, sauf que par le boulot, je suis souvent un peu à fond, on va dire, enfin à fond. J'ai des temps libres, mais je suis le week-end à fond sur toutes les courses. Après, début de semaine, je fais le journal, je mets en ligne sur le site. Donc, à chaque fois, je trouvais pas le temps pour le faire. Et là, grâce, on va dire, parce que c'est un grand monde grâce au Covid, mais j'ai eu du temps, parce que il y a plus de courses, donc j'ai plus de boulot. Et je me suis dit, je m'y suis mis, quoi. Ça a pris pendant quelques mois, je m'y suis mis. Et en quelques mois, après, j'étais arrivé à tellement de pages que j'ai fait la bascule et je me suis dit, là, c'est bon, maintenant tu vas aller jusqu'au bout parce que t'as écrit assez pour, tu sais que tu es obligé d'y aller, quoi. Et en fait le synopsis, enfin pour faire l'histoire du trail, pour moi c'était pas raconter tout le trail, ou c'est pas un livre de chiffres, un livre exhaustif, tu vois, c'est plus interroger les coureurs, les organisateurs et leur faire raconter quelques anecdotes qui les ont marqués pendant leur carrière ou pendant tout le temps qu'ils ont organisé, tu vois, des choses un peu décalées, mais plus humaines, quoi. C'est-à-dire que soit c'est des trucs rigolos, des trucs tristes, des choses décalées qui les ont marqués. Et en fait, c'est plus un recueil de pas mal d'anecdotes, de plein d'anecdotes, que vraiment que des portraits, quoi. Tu vois, c'est plus des petites histoires, quoi. D'où le titre, d'ailleurs.
Les petites histoires dans la grande histoire du trail. Merci beaucoup pour cette intro, Rémi. On va passer maintenant à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois façon sportif. Est-ce que tu pourrais nous dire, en guise de première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu ?
Je dirais, en fait, situer un peu, quand je lisais, que j'ai commencé à lire quand j'étais tout petit, je lisais des BD, c'est des bandes dessinées, des comics à l'époque. Mm-hmm. Et donc, je pensais à Wolverine, c'est le héros du... Alors, c'est assez rigolo parce que je le lis plus maintenant, sauf qu'il est à la télé, il y a beaucoup de films, enfin au cinéma, qui sortent sur les X-Men. Mais c'était un héros de X-Men, Wolverine, qui était indestructible. Voilà, c'était un peu mon héros de fiction qui me revient souvent, quoi.
Tu dis ça dans les courses parfois, tu dis je suis Wolverine, je dois aller au bout, je suis inatteignable et invincible.
ouais, alors plutôt, tu sais, si tu chutes, que tu te fais mal, lui, il a la particularité de, tu sais, tu t'as beau le tuer avec des balles et tout, il récupère tout de suite, quoi. Il guérit tout de suite.
C'est pratique.
Donc, c'est un côté pratique, quoi, pour le trail.
Et si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Oui, alors là, facile, sans hésiter, puisque j'ai réfléchi, ça serait le gecko, tu sais, c'est un petit lézard, parce que comme j'habitais à La Réunion.
Moi, je dis gecko, c'est la même chose, gecko et gecko ?
Ouais, gecko, ouais. Gecko, c'est le margouillat à La Réunion, on l'appelle le margouillat.
D'accord.
Et ouais, j'adore parce que bon, déjà, tu restes au soleil, à cramer au soleil pendant des heures. Et après, bon, il est très vif. Il te débarrasse des moustiques en plus. Donc, non, j'aime bien parce qu'il est assez coloré. C'est un côté à la fois vif et feignant.
Là aussi, le combo parfait. Et dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement, qui suscite une forme d'admiration de ta part ?
Oui, alors bon, je suis pas mal de recul par rapport à des gens qui inspirent, parce que bon, c'est toujours, ça fluctue toujours par rapport aux époques aussi, tu vois, ça change un peu, mais moi je dirais celui qui m'a plus marqué pour l'instant, c'est Haile Gebrselassie, éthiopien, des meilleurs coureurs du monde, parce que c'est un super champion, mais ensuite il a une foulée tellement jolie à voir, il est tellement léger et à la fois une puissance, tu sais, il est assez petit. Et moi, ça m'a toujours, de le voir courir comme ça, tellement bien placé, avec une foulée tellement féline, que lui, il m'a marqué vraiment. C'est le coureur pour moi d'excellence.
Est-ce qu'il court plus vite que Wolverine, tu penses ?
Ça dépend de la distance.
Merci beaucoup, Rémi. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Barclay Marathon, à laquelle tu as pris part 5 fois. Tu as donc un sacré retour d'expérience à partager avec nous. Pour présenter cette course en quelques mots, la Barclay Marathon pourrait sembler tout droit sortie des plus grands scénarios hollywoodiens, À ce titre, elle se rapproche d'ailleurs plus du scénario de film d'horreur que de la comédie romantique. Vous allez pouvoir en juger par vous-même, entre fascination et crainte, la Barclay interroge autant qu'elle fait rêver. Organisée dans le parc de Frozen Head, dans le Tennessee, cette fascinante course à travers les bois est composée de 5 boucles qui totalisent une longueur approximative de 160 km et 18 000 mètres de dénivelé positif. Elle peut même atteindre plus de 200 km et 20 000 mètres de déplus selon les années, au gré d'un parcours qui évolue au fil des éditions. En comparaison, l'Ultra Trail du Mont Blanc ou la Hard Rock 100 propose environ 10 000 mètres de dénivelé positif, soit moitié moins. Pour en donner les grands principes, cette course, à laquelle seulement 40 personnes ont le privilège de prendre le départ chaque année, doit être complétée en moins de 60 heures en réalisant chaque boucle en moins de 12 heures, à moins d'opter pour la Fun Run, un format écourté et constitué de 3 boucles seulement, à réaliser lui en moins de 40 heures, soit moins de 13h20 par boucle. Les coureurs disposent d'une carte géographique basique fournie uniquement la veille de la course et qui délimite un parcours approximatif. La Barclay, elle a été imaginée par Gary Lazarus Lake Cantrell, alias Laz, qui s'est inspiré de la fuite d'un prisonnier du pénitencier avoisinant de Brushy Mountain. En 1977, le fugitif en question, James Earl Ray, assassin de Martin Luther King, a réussi à parcourir seulement 13 km en 55 heures de course dans les bois avant d'être repris par la police. Laz aurait trouvé cette distance tellement dérisoire et prétendu pouvoir lui-même courir au moins 100 miles dans les mêmes conditions. Ainsi était née la Barclay. Depuis 1986, seuls 15 coureurs ont terminé les 5 boucles de cette course, soit moins de 2% des 800 coureurs qui ont tenté l'expérience. Personne n'a réussi à franchir la ligne d'arrivée d'ailleurs depuis 2017, cela vous donne une petite idée de la difficulté de l'épreuve. Durant la course, les coureurs doivent trouver des livres placés sur leur parcours et déchirer la page qui correspond à leur numéro de dossard, ce numéro de dossard changeant à chaque tour entamé pour prouver qu'ils ont parcouru le bon chemin. Aucune aide GPS ou montre connectée n'est autorisée, les coureurs doivent s'orienter uniquement à l'aide de boussole et de la carte préalablement fournie. Et il n'y a bien évidemment aucune balise ni station de premier soin, ça serait beaucoup trop facile. Personne ne sait non plus quand commence exactement la course, elle peut démarrer n'importe quand entre minuit et midi le samedi qui précède le 1er avril chaque année, une heure après que Laz ait sonné le signal avec une conque, une coquille de mollusque utilisée comme instrument à vent. Le départ est ensuite officiellement donné lorsque Laz allume sa cigarette. La ligne de départ et d'arrivée est symbolisée par une barrière jaune, désormais mythique, présente au milieu d'une route du parc. Les coureurs doivent la toucher afin d'attester la fin d'un tour. L'abandon d'un coureur est joué à la trompette par la sonnerie aux morts. Aussi atypique que la course en elle-même, l'inscription à la Barclay constitue déjà une épreuve en soi. Pour espérer faire partie des 40 heureux élus, les coureurs doivent trouver par eux-mêmes un moyen d'entrer en contact avec Laz, puisqu'aucun site web n'est consacré à l'événement, mais tu vas nous raconter tout ça en détail, Rémi. Je finis de planter le décor de cette course en concluant cette introduction avec les propres mots de Lazarus Lake, qui illustre à merveille sa philosophie. Les coureurs ont l'habitude de suivre un tracé, ils traversent les bois, mais ils ne voient jamais rien. Si vous enlevez la prochaine flèche ou la prochaine rubalise, ils sont perdus. Une bonne course est une expérience totale, pas juste se pointer, sortir de sa voiture, courir et rentrer chez soi. Une bonne course aide les coureurs à trouver quelque chose en eux-mêmes, c'est un défi, une incertitude, tout cela réuni. Voilà, on peut dire que le décor est désormais planté et bien planté. Avant que tu nous partages le récit de ta course épique, Rémi, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique », un exercice hautement périlleux. Alors comme tu le sais, comme j'ai eu l'occasion de te le dire lors de nos échanges préparatoires, la question qui pique, elle a souvent tendance à être tirée par les cheveux, et celle-ci ne va pas déroger à la règle, et quand bien même son personnage principal n'en avait pas beaucoup. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui du Barclay Marathon. Et bien pour cette question qui pique, figure-toi que c'est un autre Barclay qui va être mis à l'honneur, et pas des moindres, en la personne d'Eddie Barclay. Je t'avais dit, hein. On fait un gros pas de côté. Pour le présenter si nécessaire, Eddie Barclay, décédé depuis une quinzaine d'années maintenant, est à l'origine un pionnier de l'édition et de la production phonographique française, avant de symboliser l'image d'un showbiz à la française et des clichés qui vont avec. Voilà ma question qui pique pour toi, Rémi. En 1948, Eddie Barclay est à l'origine de l'importation en France d'une innovation musicale qui connaît ces dernières années un fort regain d'intérêt. Saurais-tu me dire laquelle ?
L'importation d'une nouveauté musicale.
Oui. Qui a contribué aussi à relancer modestement l'industrie musicale ces dernières années, au même titre que le streaming. Est-ce que tu as une idée?
Oui, alors peut-être, je ne sais pas, il doit y avoir le disque ou un truc comme ça.
Oui, exactement.
33 tours, ouais.
Et c'est exactement ça. Figure-toi qu'Eddie Barclay est à l'origine de l'importation en France du vinyle au format 33 et 45 tours, qu'on appelle également micro-sillon. Et en effet, à l'époque, un ami américain lui a parlé de cette nouvelle invention new-yorkaise qui permettait d'enregistrer une demi-heure de musique par face au lieu des 3 à 5 minutes habituelles pour les 78 tours, qui était le format standard de l'époque. Eddie Barclay et sa femme partent alors immédiatement se procurer la technique de fabrication de cette invention révolutionnaire qui n'est pas encore répandue en France. Ils importent même 3000 tourne-disques des États-Unis. Le phénomène prend rapidement beaucoup d'ampleur en France, car ces nouveaux disques sont plus pratiques et plus solides que les 78 tours, même s'ils nécessitent d'investir dans un nouveau support d'écoute. Ce fait d'armes vaudra d'ailleurs à Eddie Barclay le surnom qui lui a survécu d'empereur du micro-sillon. Bon, quoi qu'il en soit, je suis pas certain qu'Eddie Barclay aurait tenu le choc sur une Barclay marathon, mais je suis par contre convaincu que dans les marathons de soirée alcoolisée, il a été bien souvent finisher. En tout cas, il y a pas mal de photos qui l'attestent.
Il avait beaucoup de. Il s'est beaucoup marié, je pense aussi.
Ouais, huit fois. Écoute, j'ai appris ça en préparant cette question qui pique. Et il s'est marié 8 fois, ce qui est quand même pas mal. Il était apparemment très exigeant. Ses femmes avaient.
Il est connu pour ça. Ouais,
ses femmes n'avaient pas le droit de faire grand chose, apparemment. Il fallait qu'elles soient H24, 7 jours sur 7, entièrement à sa disposition. Il ne fallait pas faire autre chose. Elles n'avaient pas le droit. C'en est fini notre question qui pique de course épique. Le moment est venu cette fois de plonger avec toi, Rémi, dans cette course épique à l'occasion de ta Barclay de légende. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as entendu parler de la Barclay pour la première fois?
Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur Eddie Barclay, parce que il y avait quand même une anecdote, c'est que Barclay, c'est ça vient du nom d'un copain de Lazarus, qui n'a rien à voir avec la course, en fait. C'était comme si c'était un bon pote à lui, il voulait lui rendre hommage, je lui ai dit, bon, ben, je vais appeler la course comme ça.
Sympa.
Et voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Tu vois, ça n'a aucun rapport avec personne. Et c'était anecdotique, mais c'est sympa de le savoir. Mm-hmm. Et moi, je l'ai connu, en fait, j'ai dû la première fois vers, tu sais, les 2010 ou 2009, tu vois, j'étais en train de parler parce que je recherchais, une course aux États-Unis, quelque chose à faire, tu vois, on peut aller ailleurs, chercher une nouvelle course. Alors, il y a, aux États-Unis, il y a la Western States, il y a la Hard Rock, et il est présenté quand même. Alors, je sais pas où je l'ai vu, sûrement sur Internet ou sur un magazine. Il présentait la Barclay comme ça, je savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était une course comme une autre, tu vois, et je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder. Et c'est là que, en fouillant, j'ai vu que c'était quand même très atypique, et, que ça avait rien d'une course, en fait, c'est où tu as un départ, une arrivée, et tu suis des balisages. C'était vraiment autre chose. Et le petit côté mystérieux et énigmatique m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même un peu barge.
C'est pour moi.
Il faut que je creuse un peu pour savoir. Et c'est là que j'ai vu, pris contact après, un peu plus tard, avec Christian Baudouy, le premier Français à y être allé. On a commencé à parler des tours finis ou pas. Donc lui, il a fini son premier tour et il est parti sur le deuxième. Mais après, il a arrêté au bout de... Je crois qu'il a dû faire une ou deux pages de livre. Et du coup, je l'ai contacté. Alors, pour les années, j'ai dû faire ma première en 2015, je crois. Donc lui, j'ai dû le contacter. Tu vois, il a dû faire 2012. Alors, je mélange un peu toujours les années à force. Mais du coup, il m'a répondu et il m'a dit, bon, la Barclay, c'est quand même particulier, c'est mystérieux pour s'inscrire. Je vais pas te donner le contact tout de suite. Il faut que tu te procures d'abord un livre sur la Barclay, le seul qu'il y avait à l'époque, qui était écrit par Ed Fortow, c'est le pionnier de la Barclay qui a fait toutes les éditions et qui a écrit un livre en anglais. Donc, je me suis procuré, je l'ai commandé. Et une fois que je l'ai eu, j'ai repris contact avec Christian, qui l'a loué un peu les efforts que j'avais fait pour
tu méritais d'en savoir plus. T'avais gagné sa confiance.
Et du coup, il m'a donné le fameux mail de Laz et le contact, quoi. Et voilà, de fil en aiguille, après, j'ai pris contact. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que le temps qu'ils répondent, le temps que t'arrives à le, tu sais, pour pouvoir être pris, il faut envoyer une lettre de motivation, on va dire. Mm-hmm. Et cette lettre doit être c'est pas pour dire, tu vois, je suis fort, j'ai fini ça, je suis le meilleur. C'est plus un truc qui doit être, à mon avis, un peu décalé, un peu humoristique, tu vois. Et pour arriver à toucher Laz d'une certaine manière, quoi, voilà. Comme il est quand même assez littéraire, Laz, il a écrit pas mal d'ouvrages, notamment sur ses chiens, comme il a écrit pas mal de petites nouvelles sur la vie de ses chiens. Il a édité des ouvrages, tu vois, il faut arriver à le toucher.
T'as joué la corde sensible, tu lui as parlé de chien, c'est ça? Pour le convaincre.
Moi, je l'ai eu par... c'est complètement décalé, ça a fait rire beaucoup de gens, mais moi, je l'ai eu par... je l'ai eu sans le faire exprès, en fait, parce que j'écris mal, je parle mal l'anglais, et donc je l'écris encore plus mal, on va dire. Donc, et j'ai mis une phrase qui était un peu hors contexte, qui ne devait pas dire ce que je voulais, moi, dire. Et ça a fait rire un peu tous les... Tu sais, quand tu t'inscris, tu fais partie d'un groupe sur de mail, c'est un groupe Barclay, d'envoi mailing. Et
ils se sont tous moqués de toi, c'est ça, les anglophones?
Exactement, exactement. Ça, les Américains, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, là, qu'est-ce qu'il dit?
Tu connais une première tentative de participation avortée en 2012, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors ça a été la première fois où j'ai obtenu, disons, l'aval de l'AS, j'étais dans la liste des 40. Sauf que, alors il faut être franc, à l'époque c'était pas du tout connu en Europe en fait, il y avait très peu de monde le connaissait la Barclay. Et à part peut-être le magazine Ultrafondu qui avait fait un beau reportage sur, et c'est très très
confidentiel,
c'est dans une petite niche on va dire, hein, de gens un peu qui s'intéressaient vraiment à ça. Du coup, c'est tombé quand j'ai dû y aller en 2000, quand j'aurais dû y aller, c'est tombé sur. Moi, j'avais beaucoup de boulot au magazine et j'ai pas pu décommander. Enfin, un marathon où je devais faire un reportage. Donc, j'ai croisé sur une course un ami. Je lui en ai parlé, qui était passionné d'ultra aussi, hein, qui est un grand champion, c'est Thierry Corbariou.
Que j'ai eu la chance de recevoir dans un épisode. D'ailleurs, il nous parle de sa Yukon. Hein. Je fais une petite parenthèse.
Mais... Voilà, exactement. Mais tu le connais.
Un
tu vois.
Sacré personnage.
Et du coup, il m'a dit, ouais, moi ça m'intéresse bien. Si tu peux me donner le dossard, je lui dis, tu sais, je sais pas comment ça se passe avec Laz. Je connaissais pas Laz, hein, à l'époque. Mais je lui demande, voilà. Et donc Laz, je lui dis, je me désiste parce que t'as le droit. Mais je l'ai su qu'après. T'as le droit si tu t'y prends assez tôt. À te désister en te disant, mais t'as eu ses raisons, hein, t'es malade, t'es blessé. Mais là, prends en compte ce désistement avec une liste d'attente qui est, dès qu'il fait la liste des 40 prix, il y a une liste d'attente tout de suite qui est d'une trentaine de personnes. Et t'as souvent, dans les armées, t'en as 10, 15 qui sont pris en liste d'attente, qui remplacent d'autres. Et donc, il m'a dit, il n'y a aucun souci, je mets Thierry sur. Tu vois, il a pris Thierry, il n'a pas pris la liste d'attente, il a pris Thierry. Il l'a mis à la place, donc Thierry est allé faire une expérience là-bas aussi assez rapide, on va dire, parce qu'il n'était pas vraiment préparé pour ça, mais il voulait découvrir quand même ce que c'était cette fameuse épreuve. Et du coup, voilà, c'était mon premier essai, mais moi, j'ai rien fait, en fait. J'ai juste eu la place, et après, j'ai vu Thierry au retour, voilà, quoi.
En 2014, le reportage de Canal+ Intérieur Sport impacte radicalement la notoriété et l'image de la Barclay. Qu'a changé ce reportage à l'époque? Est-ce qu'il a également modifié ta propre perception de la course et accru ton envie d'y prendre part?
Exactement. Jusqu'à là, tu vois, c'était pour moi, c'était dans du domaine un peu de pas énigmatique, tu sais, mais de ça, rien n'a été fait. Je savais rien sur la course, j'avais rien vu, j'avais lu juste un truc, donc c'était vraiment très très flou, pour pas dire il y avait rien. C'était le rien, tu vois, même le néant. Donc Intérieur Sport, ils ont fait le reportage, mais sur la course de Thierry, hein, ils l'ont fait en 2012, mais il est sorti bien qu'après, beaucoup plus tard. Et le fait de voir ces images, comme beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il a eu un énorme succès, le reportage, ça prend tout de suite forme. C'est un côté plus, du coup, plus terrifiant. T'as le mystère de, tu sais, qu'il y a l'inscription, tout ce que t'as raconté pour présenter la course, c'est-à-dire les départs, tu sais pas quand est-ce que c'est le départ, il fume la cigarette pour parler de départ, enfin, que des trucs un peu comme
ils
ça.
Ils ont joué la carte énigmatique au maximum, c'est ça, pour intriguer sur la
course. Voilà, exactement. Et là se rajoutait le côté un peu terreur, quoi. Le reportage est très très fait pour faire peur aux gens. Noir et blanc, t'as des trucs qui passent sous la prison, t'as la forêt qui est vraiment. On se croyait dans un film d'horreur, quoi. Et vraiment vraiment ça, hein, c'est vraiment un film d'horreur. Donc tu te ressors avec ça, tu te dis ah ouais quand même. Et ça te donne encore plus envie d'y aller, tu vois. C'est un peu le côté maso, mais tu te dis ah ouais, c'est quand même extraordinaire comme course. Et là, du coup, comme j'ai redemandé à Laz dans la foulée, il m'a dit oui tout de suite. Alors là, je me suis dit, cette fois, tout peut arriver, t'es obligé d'y aller, quoi. Tu vois, il n'y a plus de boulot qui tienne, t'y vas, quoi.
Tu fais donc le grand saut en 2015 pour ta première participation à la Barclay. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en place une préparation particulière? Est-ce qu'il y a des éléments très spécifiques ou inhabituels qu'on intègre dans la préparation d'une telle course?
Et non, là, toujours pareil, c'est venu après, moi, pour ça. Tu vois, là, pour la première participation, j'y suis allé un peu la fleur au fusil. Pour la simple raison en fait que j'avais pas de retour d'expérience de quiconque. Alors après j'aurais peut-être pu interroger des Américains, mais bon, encore fallait-il avoir les contacts et tout, tu vois, et réussir à parler aussi en anglais, donc c'était quand même un gros boulot. Mais à l'époque j'ai parlé avec Thierry qui était allé. Il m'a pas dit grand chose parce que lui il l'a fait un peu au pied levé et il est pas resté même sur place. Il est parti après faire un peu de tourisme ailleurs. Et du coup, il a rien su me dire vraiment, quoi. À part le fait que la carte était très très pas précise, très très imprécise. C'était une carte du parc que t'achètes au parc, carte touristique. C'est tout, quoi. Il m'a dit, voilà. Et du coup, je me suis retrouvé sans vraiment préparer le truc. Je me suis un peu entraîné plus que d'habitude, mais pas autant qu'il l'aurait fallu. Et surtout, j'arrive là-bas avec la peur au ventre. J'avais tellement le reportage dans le truc. Tu vois, je connaissais pas du tout l'endroit. Quand je tapais sur Google l'endroit où c'était, ça avait l'air d'être tellement paumé, tu sais, que tu arrives dans un endroit du fin fond du Tennessee, en pleine campagne, et à l'entrée du parc, je me rappelle, à la voiture de location, j'étais avec Chris, ma compagne, et on se demandait vraiment où on était, quoi, où tu débarques. Et alors que bon, le parc, après, en le connaissant, en été et tout, il est sympa, tu vois, il y a des trucs pour enfants, pour jouer, tu sais, des parcs pour enfants. Et là, en plein hiver, c'est un truc tellement lugubre que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est comme ça, quoi.
Oui, et puis tu avais des a priori, donc forcément, ça a dû biaiser aussi ta perception au moment où tu t'entrais dans le parc.
Oui, oui, et puis moi, je dirais, ça fait partie du jeu, mais c'était chouette parce que, tu vois, outre le fait que je savais pas du tout comment était fait le parc, j'avais pas du tout conscience de la topographie. Ce qui allait maintenant, à notre époque, n'est plus du tout vrai pour tous ceux qui y vont, ceux qui sont pris, ils savent déjà à l'avance comment va être le parc, comment il est fait, plus ou moins la carte, ils connaissent plein de choses qu'à cette époque, eh ben, tu ne peux pas trop savoir. Et c'était vraiment l'aventure pour ça, quoi, tu vois. Il y a un décalage maintenant avec le fait que ce soit beaucoup, beaucoup plus connu, il y a beaucoup plus d'accès à des infos, tu vois, ça s'accumule les infos, et finalement, ça a perdu un peu moins d'aventure. Moi, ça a perdu son côté un peu plus aventure. Et au début, il y avait ce côté un peu t'y aller vraiment sans rien savoir du tout. Ça avait côté prenant, tu vois. Je m'en rappelais toute ma vie de l'entrée dans le parc la première fois que j'y suis allé, quoi. C'était...
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dimension logistique et ta propre organisation à l'occasion de ta première participation? Qu'est-ce que t'as emmené? Enfin, t'as dans ta voiture, c'est ta maison en fait, et puis t'as un stock de matériel, de bouffe, de à boire. Enfin, comment est-ce que niveau logistique tu t'organises?
Oui, alors là, ça. Par contre, ça n'a pas trop changé par rapport au début, parce que tu y vas en te disant « je vais faire le mieux que je peux ». Alors là, c'est plus sur les années. La première année, je ne savais pas, donc j'ai fait comme j'ai pu. Mais après, tu te prépares. Ouais, alors au niveau logistique, tu prépares dans ta voiture. Alors soit tu as une tente ou tu vois, tu as des places réservées au parc pour les coureurs. Tu as une quarantaine de places. Mais tout le côté parking, camping est pris par les coureurs. Et moi, je suis resté dans une grande voiture, en fait, qui fait un peu comme un van. Hein. Et là, je dormais et j'avais tous mes sacs à côté. Et tu te prépares toutes tes doses de ravito. Mais alors, évidemment, tu prépares pour aller le plus loin possible. Donc, tu prépares pour 3 jours, tu sais, les 5 tours. Sauf que tu n'y vas jamais. Donc, tu as préparé pratiquement 3/4 des choses qui vont servir à rien. Mais au moins, tu prépares à chaque fois comme ça, quoi. Tu as des rechanges, des affaires de rechange de côté, tes petites poches avec... pour chaque tour, ce que tu dois reprendre, tes piles de la frontale, tu vois, tu prépares ça. Ben c'est un peu, chacun est un peu préparé pareil en fait, hein, puisque mais tu te sers que d'un minimum, parce que souvent si tu arrives à faire un tour puis deux, voilà, c'est le max souvent. Donc t'as vite, tu vois, tu te prépares bien, mais tu te sers pas de tout.
Est-ce qu'on s'autorise à rêver de faire un résultat quand on participe à une Barclay pour la première fois? Est-ce qu'on se dit qu'on a une chance, aussi infime soit-elle, d'aller au bout?
Alors ça. Presque, ça fait partie du rêve, tu sais. C'est un truc que t'as en toi, qui fait que t'as envie de le faire comme si tu jouais, tu sais, c'est presque la marque, c'est parce que c'est quand même, avec tous les facteurs que t'as cités, ça devient presque un jeu, quoi, ou un jeu de piste, ou tu vois ce que, et c'est un truc que c'est comme si tu jouais l'auto et tu te dis, bah, il y a quand même une possibilité au loto que je gagne. Mais tu sais que c'est pratiquement impossible, tu vois, personne ne gagne l'auto, quasiment. Il y en a quand même qui arrive à gagner, alors tu te dis, ouais, mais bon, pourquoi pas, pourquoi tout serait pas aligné ce jour-là, de retrouver une forme comme quand t'étais jeune, t'étais super bon, tu retrouves une forme pareille, et puis, voilà, tu arrives à passer le cap, tu vas suivre le premier tour avec la bonne personne, tu te dis que tout peut se regrouper au bon moment.
Tout peut, ouais, se passer, voilà, très favorablement ou à l'inverse. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes dans les deux sens.
Exactement.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec Laz avant la course? Comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il dégage ou l'inspire en vrai? Est-ce qu'il est conforme à l'image de bonhomie et de sympathie, doublé d'une certaine forme de ce qu'on pourrait appeler presque du sadisme? Ou est-ce que c'est juste un personnage haut en couleur, un peu taquin, qui est bourré de second degré?
Alors, il y a les deux, y a deux versions, parce que ce que tu viens de dire là, c'est vraiment le personnage. Il a plein d'humour et quand tu discutes avec lui, il est très, très humain, c'est un humaniste, tu sais. Donc, mais ça, il joue un personnage quand il est sur la Barclay, quoi, quand il est sur la course, pendant toute la durée, pendant 3-4 jours. Il arrive, tu sais, la veille de la course, dans l'après-midi, hein, parce que le soir, il y a le petit pastel avec le poulet qui fait cuire sur une plaque. Et quand il arrive, il installe toutes les plaques minéralogiques là, que chacun amène à la première édition. Et bien maintenant, il y en a quelques centaines, et il met quelques heures à tout installer, à tout tendre comme sur des fils à linge comme ça. Et il est toujours avec un grand manteau là de cow-boy, avec son chapeau. Et il joue un peu le côté qui fait peur, quoi, tu vois, pour un peu, il est dans un personnage un peu de film, et entre western et film d'horreur. Et du coup là quand tu le connais que sur ça, là tu peux te dire, ah ouais, quand même il est assez effrayant. Après, dès que tu le connais hors course, hors cette course, bon voilà, après il redevient le Laz beaucoup plus humain, beaucoup plus décontracté, tu vois, c'est comme ça que je le perçois. Après, il est venu, tu sais, il est venu à la maison chez moi après la troisième participation, je crois, ou la deuxième. Je l'ai invité un peu pour le remercier de ce qu'il m'avait fait vivre, quoi. Et donc là, j'ai appris à le connaître, à discuter vraiment avec lui et tout. Et moi, ça a pris rien à voir, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler des heures qui précèdent le départ? Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que l'angoisse et l'inquiétude est encore plus forte alors qu'on touche quasiment au but et au départ? Ou est-ce que pour le coup, tu as été plutôt dans une logique de dire que tu es très impatient que ça démarre et que tu puisses enfin te confronter à cette Barclay?
Oui, alors, si tu parles de la première édition, en 2015, là j'étais vraiment... je flippais tellement, on va dire, où j'avais tellement peur de ce qui pouvait arriver, de ce qui allait arriver. Et là tu dors presque pas, tu sais, parce que tu sais pas l'heure de départ. Bon, entre minuit et midi, hein, donc la veille, tu vas au lit... quand tu peux, vers 8h, 9h, c'est dès que ça commence à être un peu, le soleil a tombé, la nuit est arrivée, mais dans ta voiture, là, moi j'étais dans la voiture, t'arrives pas à dormir, quoi, tu te retournes et tout, tu te dis, bon, faut que t'entendes la conque, il faut pas que tu loupes ça, t'as ce mystère, t'as vraiment une chape sur toi, c'était un souvenir incroyable par rapport à ça. Après, évidemment, alors, je dis pas qu'après t'as pas peur, évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus atténué, et tu profites un peu plus de l'ambiance, du camp avec les autres coureurs où tu arrives à discuter et tout. La première édition était particulière quand même. Pour ça, ça a été chaud.
Est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière en imaginant que ce soit possible de le faire?
Non. Quand j'y suis allé, la première, c'était plus. On voit comment ça se passe, quoi. Comme je connaissais pas du tout le parc, ni le parcours évidemment, mais pas le parc, pas le moindre bouquin, parce qu'il y a quelques livres après. Qui sont un peu, qui se recoupent, quand ils sont au même endroit, il y en a deux ou trois qui met à chaque fois au même endroit, là où il y a l'eau, le point d'eau, là où il y a la prison. Mais même ça, je ne savais pas à l'époque. Donc, j'y suis allé comme ça pour voir, quoi, pour voir comment c'est, essayer de, comme on dit, essayer de suivre un peu ce qu'il avait déjà fait, qu'il appelle les vétérans, pour essayer de rester calé, pour voir au moins un tour. Et c'est ce qui s'est passé, quoi.
Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant de prendre le départ?
Oui, alors là, par rapport aux plusieurs éditions, plusieurs années d'expérience, le truc que j'apprends le plus, on va dire, c'est de me dire, de pas me perdre tout de suite, tu vois, de pas me retrouver esselé, pas arriver, tu vois, c'est souvent là-bas la météo est souvent hyper changeante et hyper difficile, entre brouillard, pluie intense et tout, et froid, donc me retrouver perdu un peu tout de suite et être obligé de revenir, tu sais, alors que t'as fait deux bouquins. Là, je trouve ça quand même, ça ferait très mal quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas, tu te prépares pendant des mois et tu fais le voyage et tout, et revenir à la voiture comme ça tout de suite. Là, voilà, c'est ce qui me fait le plus peur, quoi, à chaque fois.
Est-ce que tu peux nous parler maintenant donc de la façon dont s'est passée cette édition 2015 pour toi, en commençant par le premier tour? Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées tout au long du parcours? Est-ce que tu peux un peu nous projeter dans le décor dans lequel tu évolues, et puis des principales difficultés et des moments un peu clés de ce premier tour?
Oui, alors la première édition 2015, alors je la garde en mémoire parce que c'était la découverte totale. Donc là, je me souviens on était trois, alors moi on était quatre, quoi, moi, avec moi, trois et plus moi. Et j'ai suivi et subi tout un premier tour avec une fille, Nikki, une américaine, je crois bien, qui connaissait bien, elle avait fait déjà trois ou quatre fois, elle avait fait pratiquement trois tours, je crois, une année. Mais elle a, avec du recul maintenant, elle a fait beaucoup de hors-piste, mais alors vraiment, dans les ronces et tout, mais j'ai jamais fait aussi déchirant que ce premier tour, quoi. Il y a beaucoup d'endroits où elle aurait pu faire un peu différent. Et du coup, moi, j'ai fait que suivre, on va dire. Et j'ai énormément subi les passages dans les ronces où on se déchirait de partout. C'est ce qui m'a le plus marqué, ce côté tout à fait hors sentier et tout le temps à fond, moi, pour juste arriver à suivre. Quoi. Et donc, je suis arrivé au premier tour avec eux. Hein, on a fini ensemble, mais complètement explosé, déchiré comme jamais, juste pour finir le tour juste dans les temps. Quoi.
Et quel sentiment on ressent justement quand on arrive à boucler un premier tour pour sa première participation à une Barclay? Qu'est-ce que t'as ressenti?
Oui, quand même content, quoi, parce que je savais les deux Français entre guillemets qui l'avaient tenté avaient fait un tour et pas plus, quoi. En fait, Thierry pas tout à fait dans les temps et Christian avait fait un tour, était reparti dans le deuxième. Donc je savais que j'étais dans le timing, on va dire. Donc dans le timing normal, tu vois, mais parce que ça fait que deux, il y avait que deux expériences avant. Et donc déjà content pour ça. Je me dis au moins ce que je disais avant, je suis pas revenu tout de suite, même si j'ai pas fait grand chose au niveau orientation parce que j'ai fait que suivre, on va dire. Mais une fois que t'es entraîné dans le fait de suivre, t'es un peu déboussolé. Si t'as pas regardé ta boussole tout de suite, en fait, si t'as pas regardé la carte et tout, t'es un peu déboussolé, donc t'es obligé de te dire, allez, il faut absolument que je reste avec, sinon je sais même plus où je suis moi dans le parc. Tu vois. C'est pour ça que je disais la connaissance du parc, si tenter que tu vas avant pour connaître, pour reconnaître, que maintenant les gens savent un peu comment il est même sans y être allé. Ça, je le savais pas moi, à l'époque. Si je m'étais retrouvé tout seul, j'étais paumé au milieu du parc sans savoir, tu vois, par où rentrer même. Donc voilà, c'était un peu le côté. J'étais content d'avoir fait ce premier tour, au moins pour une première édition.
Et donc sur le parcours, là, tu nous as parlé des ronces. Enfin, il y a beaucoup de montées, c'est beaucoup de bosses, c'est boisé. Enfin, si on doit projeter et visualiser à quoi ça ressemble concrètement la Barclay. On a vu un certain nombre d'images, mais est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous dire contexte.
La force avec l'expérience, je commence à bien connaître le parc. C'est que des montées et descentes. Il y a quasi pas de plat. Hein. À chaque fois, c'est il y a un peu de sentier au début, un peu à la fin. Sentier, ce que j'appelle sentier de randonnée. Hein. On va dire 3 km au début, 3 km à la fin, et un peu au milieu, mais pas beaucoup. Tu vois, sur les 40 km, tu dois en avoir 5-6 de sentier. Et après, c'est que du ressentier. La plupart des bosses, c'est des montées, c'est genre comme des kilomètres verticaux. C'est-à-dire, tu vas droit dans la pente. Sur des trucs de 600-700 mètres de dénivelé. Et c'est que des accumulations comme ça de montées et de descentes. Et quand tu descends, c'est pareil, c'est droit, pas hors sentier, quoi, droit. Alors, c'est souvent des feuilles, tu sais, de mortes, hein, des branchages morts, des ronces. Et tout autour de toi, c'est que, alors c'est parce que c'est l'hiver, hein, mais c'est que des arbres, on a l'impression presque des arbres morts, quoi, tu vois. C'est des arbres, l'hiver, voilà, qui, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuillage. Et c'est ce qui donne un peu le côté, à la fois triste, un peu lugubre, et à la fois aussi uniforme. C'est que ça, quoi. Le parc, c'est que des collines avec des à perte de vue des arbres divers, quoi, des arbres morts. donc voilà, c'est très paumatoire par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que tout se ressemble et c'est des successions de petits monts. Voilà. Alors, je dis des collines, mais t'as quand même des montées directes de 700-800 mètres directes dans la pente, quoi.
Si on se repenche sur ta course de 2015, est-ce que c'est difficile de relancer la machine pour un deuxième tour quand on sait ce qui nous attend, ou au contraire, c'est en quelque sorte plus rassurant parce qu'on a déjà un aperçu du terrain et on s'est déjà frotté en fait au parcours? Est-ce que tu traînes les pieds pour relancer, ou est-ce que tu dis, allez, ok, maintenant je sais où je mets les pieds et ça va aller, ce sera dur physiquement, mais en tout cas, j'en sais un peu plus.
Ouais, pour moi, non, pour 2015, alors c'est assez concis, assez bref, c'est que j'étais déjà bien cramé. J'avais fait que subir le premier sans savoir. Alors, je savais rien du tout, en fait. Hein. J'avais rien appris sur le parcours. J'ai fait que suivre Nicky. Et du coup, le deuxième, je relance, mais je sais que voilà, je vais arrêter tout de suite, quoi. Je suis pratiquement plus dans la course. Je relance pour dire, tu vois, j'y suis allé. Et je crois que je suis allé sur un bouquin. Mais c'était fini, quoi. Parce que le premier bouquin, entre guillemets, tu montes le sentier qui est un peu plus, pas balisé, c'est le sentier du parc. Si, il est balisé, quoi, en fait, mais par les balises du parc. Et après, voilà, le premier bouquin, après, j'arrête, quoi, je rentre, je suis explosé, quoi.
Là, c'est un cas un peu particulier parce que tu as fait demi-tour assez tôt dans le second tour, mais concrètement, comment est-ce qu'il est possible de revenir au camp de base une fois qu'on a décidé d'abandonner et qu'on est au milieu du parcours? C'est quoi les moyens les plus simples et les plus directs de rentrer à la maison?
Oui, le parc est... tu as quand même des sentiers de randonnée, tu dois en avoir 3 ou 4 avec des noms qui sont nominés. Et tu en as un qui fait... En gros, tu en as un qui fait le tour dans le nord, un qui fait le tour par le sud, tu vois, enfin, un beau sud, un beau nord, et deux ou trois qui font la transversale, quoi. Donc, selon où tu es dans le parc, tu as toujours possibilité soit de faire demi-tour, si tu es sur le sentier, tu restes sur le sentier, soit d'aller chercher, choper un bout de ce sentier. Alors, c'est des trails, ça s'appelle des trails, de ce sentier-là, qui te ramène soit en transversale plus vite, à la porte jaune, quoi, la yellow gate.
Qu'est-ce que ça a été le principal enseignement que tu as retenu de cette première Barclay, ton principal apprentissage sur cette saison 1 de ton aventure Barclay?
Le principal, je dirais, de me dire, déjà de te situer par rapport au physique, par rapport au fait de ce qui te manque au niveau physique, purement physique, et après, sur purement par rapport à l'orientation, tu te dis, si j'ai fait que suivre et que je me retrouve encore paumé, ça vaut le coup de situer le parc, de savoir comment est le parc, de faire un peu d'orientation par rapport à ça, quoi.
Est-ce que tu as ressenti immédiatement l'envie de prendre le départ l'année suivante, ou à ce moment-là, tu voulais plus du tout entendre parler de la Barclay?
Je sais pas, je m'en souviens plus de ça. Comment? J'étais content d'avoir fait le tour, je m'en souviens, tu vois, j'étais soulagé de ça, de pas me dire je suis, c'est bredouille, et je pense pas que le truc d'y revenir soit venu tout de suite, parce que il y a toujours le côté, tu sais que tu vas être obligé de redemander à l'AS, tu sais, de refaire une lettre de motivation, de refaire le
retrouver une blague pour la lettre de motivation.
Voilà, le cheminement de nouveau être dans les 40. Et là, je savais pas trop comment il fonctionnait l'AS. Je l'ai découvert qu'après, tu vois. Donc, je me suis dit peut-être y revenir, mais est-ce que ça va être faisable, quoi. En gros, c'était ça.
Tu remplis donc l'année suivante pour une deuxième participation. Est-ce que tu te sentais plus en confiance du fait de l'expérience acquise l'année précédente?
Oui, après j'ai eu la chance de que l'AS reprenne, parce que comme je te disais, c'était pas évident. Et en fait, il privilégie un peu ceux qui ont tenté et qui se dit tiens, celui-là il pourra aller plus loin. Lui, pour lui, c'est sa façon de procéder. Donc l'année d'après, il y a un peu moins de pression au départ. Tu vois, t'as un peu moins de peur. Après, tu sais qu'il y a tous les facteurs météo. Orientation physique qui joue et qui vont être là de toute façon. Donc je suis un peu dans cette côté appréhension aussi.
Est-ce que tu avais adapté des choses dans ta préparation compte tenu de ta première expérience?
Oui, alors de souvenir, c'est là où j'ai commencé à faire des grosses préparations l'hiver ici en France. Chose que j'avais pas faite sur la première édition, ou pas vraiment aussi bien faite. Là, j'ai commencé après à vraiment enquiller des grosses semaines et des gros mois de préparation.
Ton démarrage de course, tu le vis en compagnie d'un coureur allemand et qui se passe de façon beaucoup plus favorable qu'en 2015, en tout cas sur l'essentiel du premier tour jusqu'à un dernier livre qui t'a joué un sacré tour. Est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes cette seconde édition de ta Barclay?
Oui, alors ce qui m'a marqué sur la deuxième, c'est que par rapport à la première, on a fait beaucoup de ronces, de sentiers, enfin tu vois, de hors sentiers, mais vraiment dans les broussailles, les ronces. Là, c'était un peu plus dans la normalité en fait de ce qui se fait après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux quand même contourner des ronces, on va dire, et même si c'est du hors-sentier. Donc là, je me retrouve avec un Allemand et son collègue allemand, je crois que c'était deux. Et du coup, même là, il y a un peu plus côté entraide qu'il n'y avait pas la première année, c'est-à-dire que j'essaye de regarder où on est, de me situer. Et du coup, côté physique aussi, je me sens un peu mieux. Tu vois, je subis beaucoup moins, quoi, le premier tour. Et même dans dans le dernier bouquin, de souvenir, je me dis je sais où il est, donc avec l'Allemand, dans la dernière grosse montée là, qui est carrément un kilomètre vertical, je le lâche un peu, et en me disant c'est le dernier bouquin, je sais à gros où il est, donc j'y vais. Et sauf que je suis allé de l'autre côté carrément, de par où il fallait arriver au sommet. C'est un sommet très étalé avec des gros rochers partout, et là je me paume et je mets 3/4 d'heure, alors qu'on était à vachement en avance au niveau timing par rapport, tu sais, s'il faut mettre 12 heures pour le premier tour, pour un tour, et là on était dans les 10 heures, et je me dis tu bascules et à 10h30 t'y es, quoi.
Comment est-ce que tu gères ça psychologiquement, Rémi, cette phase où tu vois s'envoler les précieuses minutes que tu as gagnées justement avec cette course que tu as mieux gérée? Est-ce que ça fout une surpression? Est-ce que tu paniques ou est-ce que ça crée du stress et donc tu es peut-être même moins efficace dans la recherche de ce bouquin parce que tu constates le temps qui s'effile et alors que tu pensais être mieux?
Ah ouais, totalement. Là, il y a tout qui se mélange en fait. Tu arrives et t'es bien, mais tu as la fatigue quand même qui commence à être là et tu commences à stresser. Tu te dis, ah, c'est pas possible, je vais être au-delà de 12 heures. Tu as le temps qui passe très vite et tu fais rien. Tu essaies de trouver. J'essaie de voir si l'Allemand qui était censé être pas loin. Finalement, je ne vois pas sa frontale parce que la nuit était tombée. Je me dis, mais il est passé par où? Et en fait, j'étais carrément du mauvais côté du versant du sommet. Et à un moment donné, presque de dépit, je m'arrête, je remonte, je regarde la carte, je regarde la boussole. Et là, je me dis, ah ouais, ça y est, ouais, je vois l'erreur qui est faite. Et j'arrive juste à me reprendre pour reprendre le bon petit sentier de l'autre côté. Et j'arrive juste, pareil, j'ai dû mettre 11h30, comme la première année. Sauf que ça aurait pas dû se passer comme ça, quoi. Voilà.
Est-ce que tu as envisagé de ne pas repartir pour le deuxième tour?
Et non, là, je m'étais dit, quand même, quoi qu'il arrive, sauf hors temps, évidemment, mais si t'es dans les temps, tu repars pour essayer de faire mieux, quand même, que l'année d'avant. C'est toujours le leitmotiv, quand même, de faire mieux que l'année précédente, tu vois. Donc, je repars, et même si ça se passe mal aussi, pareil, mais au moins, je suis reparti.
À quel moment tu décides de faire demi-tour?
De mémoire, c'était un peu plus loin que la première année, parce que la première année, j'ai suis reparti, mais c'est pour revenir vite. Comme je repars tout seul, pareil, je suis dans les derniers à repartir, parce que sur le deuxième tour, au niveau timing, je suis limite. Et je me retrouve vite tout seul. J'ai dû faire aller plus loin que la première fois, mais j'ai dû faire trois bouquins, je pense, trois livres. Et j'arrive, je vois que je suis complètement impossible au niveau timing de toute façon de faire le second tour. Donc tu vois, avec du recul, maintenant je sais que j'aurais dû quand même continuer, quoi, tu vois. Mais bon, quand t'es commencé à être crevé sur place, t'es plus dans le timing. Je te dis bon, ça sert à quoi? Allez hop, je rentre. Et là, j'ai pris un chemin de traverse justement, comme tu disais. J'étais en haut du parc pour rentrer et j'aurais dû, tu vois, sur ce coup-là, j'aurais dû continuer pour apprendre après le reste, comment trouver les autres, tu vois. C'est l'expérience que t'as acquise sur place, c'est irremplaçable.
Ta participation l'année suivante en 2017 reste pour toi une très mauvaise expérience, alors même que tu pensais avoir peut-être un coup à jouer avec un deuxième tour à parcourir potentiellement deux jours. Est-ce que tu peux nous raconter cette édition et cette désillusion que tu as connue l'année suivante?
Ça, c'était une édition épique par rapport à ce départ. C'est la première fois qu'on partait aussitôt, des trois fois que je l'ai fait. Il nous réveille à 1h40, donc on part à 2h40 en pleine nuit. Et là, il y a un brouillard de folie. Et du coup, le premier livre, il, qui était toujours à peu près au même endroit, là, il le change. Il avait changé de place. Donc, on part assez vite, avec les premiers devant. Au moins, jusqu'au premier livre, tu te dis, bon, tu essaies de suivre le groupe. Et là, les devants, alors les champions qui sont devant, les deux ou trois qui avaient déjà terminé la course, qui connaissent bien l'endroit, se paument. Mais tout le monde suit, quoi. Tout le monde se paume avec beaucoup de gens, quoi, la majorité. Et du coup, là, à un moment donné, quand on arrive au premier bouquin qu'ils ont enfin fini par trouver les premiers, là, ça part dans tous les sens. Tout le monde part à fond pour essayer d'aller sur l'autre bouquin et ça avec le brouillard. Tout de suite, je me retrouve dans la première descente tout seul, isolé. Et en bas de la descente, je rejoins, alors parce qu'on était encore une quarantaine à peu près dans la même zone, quoi. Je me retrouve avec un Américain, un marathonien assez connu sur route. Et là, on l'a fait après, on est carrément de l'autre côté de la rivière, la première rivière, pas du bon côté. Et on commence à chercher. Je me rappelle, on traverse le truc dans l'eau, on a de l'eau jusqu'à la poitrine presque, dans les premiers trucs. On s'est dit, ah voilà, c'est pas possible, ça va pas le faire.
Ça va mal se passer.
Et là, on a fait une journée de folie avec lui, après avec deux autres qui nous ont rejoints, à beaucoup, beaucoup rafuter, à se tromper sur pas mal d'endroits. Et pour finalement faire le tour, 13h40 ou 14h. Donc on était juste hors délai de la possibilité de repartir, parce que c'est 13h20 pour un tour optimal. Et on est obligé d'arrêter, quoi, voilà. On repart pas sur le second tour, parce que là, on n'était pas dans les temps. Donc, première fois que ça m'était arrivé.
Et justement, comment est-ce qu'on trouve, au moment où tu constates sur le premier tour que tu seras hors délai, où est-ce que tu retrouves la source mentale pour continuer à avancer et te dire que tu vas quand même boucler ce tour, mais que finalement, la course est déjà terminée pour toi?
Eh ben, c'est par rapport à ce que je te disais, c'est-à-dire que tu peux pas y aller pour tout de suite revenir. Tu sais, tu te dis, de toute façon, donc tu vas et tu boucles le tour. C'est une façon de dire que tu as bouclé le tour, même s'il n'est pas validé puisque tu es hors délai. Mais au moins, tu l'as fait. Tu te dis, je l'ai fait. Après, ça reste quand même, c'est la plus mauvaise expérience, le plus mauvais souvenir par rapport à la Barclay. Donc, c'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu le scénario le plus noir, le plus mauvais. C'est-à-dire que tu y vas et puis finalement, tu fais le minimum presque que tu puisses faire sur le truc. Donc, c'est quand même, c'est pas très glorieux.
L'année suivante sera plus que jamais épique avec une météo dantesque. Est-ce que tu peux nous parler de cette édition 2018, édition pour laquelle aucun coureur n'a même réussi à aller au-delà de la fun run, c'est-à-dire les trois tours de course?
Oui, alors là, c'est par expérience, enfin, par excellence, c'est là l'édition vraiment la plus marquante. C'est tu pars et en moitié du premier tour, la météo commence à dégrader, mais c'est annoncé, hein, donc on le savait. Donc il nous a fait partir vers 9h30, une bonne heure du matin, on va dire. Et après, quand l'orage se met en branle, alors c'est vraiment un orage de montagne, quoi, même si c'est des collines, on va dire, ça monte à 1100 mètres. Et c'est affreux, quoi. T'as vraiment des kilos d'eau qui tombent, un truc, tu vois plus rien, mais t'es trempé tout de suite, tu peux avoir ce que tu veux sur toi, t'es vraiment essoré. Et du coup, moi. Pour dire cette quatrième édition, j'étais vraiment prêt par contre physiquement. Tu vois, j'ai commencé plus à aller, plus je me prépare, j'en fais de plus en plus, on va dire, entre guillemets. Et je commençais à être mieux par rapport au long et fond aussi. Et du coup, j'étais un peu dépité, hein, parce que peut-être physiquement, ça aurait été peut-être, j'aurais peut-être pu aller plus loin, tu vois, c'est l'année où ça aurait pu se faire. Et finalement, la météo a carrément cassé tout le monde, quoi. C'est, il n'y a pas que moi, là, du coup. C'est, on était tous
tout le monde logé à la même enseigne. Ouais.
Ouais, puis même au niveau orientation, à un moment donné, tu peux plus orienter que dalle parce que tu es dans la pluie, tu vois plus rien nulle part, quoi. Donc c'est vraiment, c'était quelque chose à vivre, quoi. Rien que pour ça, c'était. Alors après, ça dure pas non plus 3 jours comme ça. Hein. Mais le temps que ça a duré était tellement important, ça a duré tellement longtemps que ça a perturbé tout le monde, et ça a cassé tout le monde. C'est l'addition, où personne n'est allé même au bout des trois tours, je crois. Donc, pour te dire quand même l'intensité du truc.
Ta dernière participation à la Barclay, elle remonte à 2019. C'est d'ailleurs la seule techniquement possible puisque l'édition 2020 a été annulée à cause du Covid et que l'édition 2021 a été seulement ouverte aux citoyens américains. Est-ce que tu peux nous parler de cette dernière édition à laquelle tu as participé?
Et oui, alors ça reste du coup la meilleure édition pour moi au niveau performance. Donc quelque part, le meilleur souvenir. Mais bon, même s'il y a eu quand même des souvenirs, comme je te dis, la première ou avec la peur, ça reste un souvenir quand même très fort. Celle-là, par la préparation qui devient de plus en plus pointue par rapport à la Barclay, j'arrive à mieux me préparer spécifiquement pour ça. Et l'expérience aussi des trucs un peu plus longs, où j'ai fait pas mal d'autres courses un peu plus longues que j'ai jamais faites. Et du coup, j'arrive à faire le tour cette fois avec le meilleur chrono que j'ai jamais fait. Je vais faire 10h20 ou quelque chose comme ça, ou 10h30. Et ça va être sixième du groupe, septième, tu vois. Donc, je me dis, là, tout s'est bien passé. Je me retrouve avec le Suédois, Johan, et on fait le premier tour comme il faut. Je suis calé avec lui. Donc, tout se passe bien, entre guillemets. Le seul petit détail, c'est que pour enchaîner le deuxième tour, le fameux que j'aurais bien aimé, pour une fois au moins aller au bout, j'arrive pas à repartir avec lui. Je suis juste décalé de 300 mètres avec lui. Et impossible de le reprendre dans la montée, la première montée. Je marque un peu le coup, moi, physiquement. Pas complètement, pas explosé comme j'ai pu l'être la première édition, la deuxième. Mais je marque un peu le coup. Et j'ai pas pu le reprendre. Et du coup, une nouvelle fois, je me retrouve un peu esselé, mais j'arrive à enchaîner quelques livres, quelques pages, avec l'expérience aussi de la topographie du parc, de me situer un peu par rapport au parc. Et je me retrouve après avec un groupe, un groupe un peu plus loin, donc, je me dis ça peut le faire, sauf que la météo qui se remet dessus, tu vois, t'as le froid et une grosse pluie qui arrive. Et mis bout à bout, je vois que ça passe, le chrono passe, et je suis quand même assez éloigné du chrono, enfin au niveau chrono pour faire le tour. Donc c'est là j'ai fait en gros un tour et demi, quoi, un tour et j'ai dû faire cinq pages ou six. J'arrive tout à fait de l'autre côté du parc et là je prends une traverse pour revenir sur la Yellow Gate. Et donc j'ai fait le moi, ma meilleure perf que j'avais faite, mais j'ai pas réussi à finir le second tour. Donc, tu vois, ça reste, c'est bien et à la fois,
un petit coup
de ne pas être allé. Parce que physiquement, le fait d'avoir été jusqu'à l'autre bout et d'être obligé quand même de rentrer en traverse, tu te dis que j'aurais pas fait, peut-être pas loin de faire les deux tours, quoi. Donc, physiquement. Donc après, il faut quand même trouver les bouts, quand même. Donc, voilà où j'en suis.
Est-ce qu'on apprend encore des choses sur la course après 5 participations?
Oui, alors après, en apprentissage, je pense plus, parce que t'as un moment donné où tu commences à bien connaître le parc. Tu sais comment Laz place les bouquins, enfin comment il essaye de te paumer un peu quand il te donne son petit descriptif avant le départ. Tu sais comment il écrit par rapport à ça, là où il veut te faire aller. Donc tu connais Laz, tu connais un peu le parc. Tu sais les facteurs qui peuvent jouer sur le déroulé de la course, c'est-à-dire la météo, ton côté physique, avec qui tu vas être pendant le premier ou le deuxième tour, tu vois, avec qui tu te retrouves. T'as le côté un peu chance. Donc tu connais tous les facteurs. Donc après, t'as plus grand chose à apprendre, si ce n'est que tu te dis, pourvu que tout aille, tu vois, tout aille ensemble ce coup-ci, quoi. Que tout soit aligné pour que t'ailles le plus loin possible.
À quel point est-ce que c'est difficile psychologiquement de se lancer dans une course qu'on sait qu'elle est quasi impossible à terminer? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la motivation et qu'est-ce qui finalement, toi, te donne envie d'y revenir année après année?
Eh bien moi, c'est ce qui est le plus facile, entre guillemets, c'est que je me dis pas que c'est interminable, je me dis, comme tout le monde presque, hein, sauf ceux qui y arrivent, mais je me dis il faut aller le plus loin possible. Et l'objectif, c'est de faire mieux et de les fameux deux tours pour repartir dans le troisième. La fun run, tu vois, c'est des trucs que tu te dis, même si c'est très très dur, mais tu te dis, voilà, au moins m'orienter vers ça. Et donc, tu ne conçois pas la Barclay comme quelque chose que tu vas pas terminer. Tu le conçois comme quelque chose où tu vas essayer de te dépasser, d'aller le plus loin que tu peux. C'est la différence entre, tu vois, quand t'en parles à quelqu'un lambda, que tu parles de la Barclay, il va te dire, ah ouais, mais bon, si c'est pour pas terminer la course, à quoi ça sert? Mais c'est, moi, je le conçois pas comme ça, quoi, tu vois, je le conçois pas une course à terminer, mais en quelque chose où tu vas le plus loin que tu peux dans ça. Puis voilà, quoi, c'est pas une même conception de la chose.
Quels sont selon toi les critères et les qualités indispensables pour espérer faire bonne figure à la Barclay?
Alors, l'abnégation, c'est-à-dire alors, préparation, une grosse préparation, c'est-à-dire tu sais que pendant 3-4 mois, tu es obligé de faire des kilomètres, des grosses distances, d'en bouffer, quelle que soit la météo. Et après être un peu être un peu baroudeur, c'est pas aimer le confort, quoi, tu vois, c'est-à-dire tu sais que tu vas en chier au niveau météo, au niveau bouffe, tu prends tout avec toi, que tu vas passer dans des endroits où tu passes jamais, quoi, des trucs de ronces et tout, donc être un peu roots, quoi, tu vois, un peu le mec qui a envie d'en chier par rapport à ça, quoi. Donc c'est deux qualités, un peu aventurier, pas aventurier de Koh-Lanta, hein, aventurier qui aime bien partir comme ça en rando tout seul avec son sac et se démerder, un peu ce côté-là, et un peu le côté quand même très physique par rapport au fait que tu sais que ça va être très dur physiquement. Donc voilà, c'est les deux côtés qui font les qualités de mec de Barclay, quoi.
Si tu devais retenir une image de toutes tes Barclays, quelle serait-elle?
Comme ça, une, c'est dur, une, parce que je t'ai parlé beaucoup de la première fois où je suis rentré dans le parc, donc c'est celle qui me revient toujours, tu vois, celle qui marque. Mais après, celle qui me marque maintenant, celle qui me revient là, c'est quand je remets les pages à Laz sous l'orage, c'est la quatrième édition. Il y a un orage dantesque là, et on voit la vidéo ou la photo où on est sous la pluie totale dans le noir, et c'est presque l'apocalypse. Et je remets les pages à Laz quand même du bouquin, c'est parce que j'ai fini le premier tour. Ça, c'est hyper marquant par rapport à ça.
Ouais, très représentatif de la course, effectivement. Maintenant, tu peux nous le dire pour l'avoir très largement expérimenté. Au-delà de son seul tracé, qu'y a-t-il de si spécial avec la Barclay que les autres courses n'ont pas?
Ouais, la Barclay, c'est pas, je dirais ce qui est spécial, c'est que c'est pas vraiment une course, quoi. C'est plus une aventure. Et donc, c'est le mélange de plusieurs facteurs, quoi. On en a parlé beaucoup, hein. C'est la topographie, c'est un peu d'orientation, c'est le côté un peu Laz qui fait tout pour te paumer, plutôt que pour t'aider, un peu de chance aussi, tu vois, un peu la météo. Donc il y a plein de facteurs qui se greffent qui font que c'est hors course, quoi. C'est pas une course, c'est vraiment la Barclay. Quoi.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te voir demain en disant qu'il souhaite participer pour la première fois à la Barclay? Tu lui dis fonce, tu lui dis attention à ça, comment tu réagis?
Je lui dis pourquoi pas, hein, c'est comme ça fait partie d'un rêve potentiel que tu peux avoir par rapport, tu vois, quand t'es coureur et que t'aimes bien les ultras, ça fait partir d'un rêve, d'une quête que tu peux avoir. Je dis vas-y, fonce, prépare-toi quand même le mieux que tu peux, au niveau déjà physique. Essaye de. Au niveau orientation, j'allais dire, mais il faut savoir se servir dans la boussole, mais c'est pas optimal parce que il y en a plein qui sont des super orientateurs qui finalement, pareil, t'arrives à être paumé quand t'arrives pas à lire comme il faut les inscriptions, les directives de l'AS. Donc prépare-toi le mieux possible physiquement et oriente-toi quand même à la boussole, sache te servir d'une boussole et puis voilà quoi.
C'est l'heure de ta petite revanche, Rémi. On va inverser les rôles avec ce bon vieux Laz. Si tu devais imaginer une course à lui faire vivre, quels en seraient les principaux ingrédients?
Ah, c'est dur parce que Laz...
pour que lui, il sache aussi ce qui vous fait vivre.
Et oui, lui, Laz, tu vois, il a quand même énormément crapahuté. Il a pas mal, c'est un ultra-runner. Il a traversé les États-Unis en courant de tous les côtés, dans tout ça. Il est encore en ce moment, à l'heure où je te parle, en train de traverser... Alors, c'est
nord au sud, c'est ça, ouais.
Voilà, exactement. Il fait quand même une nouvelle Lascon, comme il appelle, tu sais. Donc, il est quand même toujours actif, en recherche de défis. Donc, difficile de trouver un défi qui soit à sa mesure par rapport au personnage que c'est, tu sais. Parce qu'il a quand même, c'est un coureur, un ultra-runner dans l'âme, tu vois. Et en plus, il a déjà tellement réfléchi au fait de proposer à quelque chose aux gens d'aller au-delà d'eux-mêmes, que ça va être dur de le piéger par rapport à ça, tu vois. Lui-même, c'est presque le Hitchcock de la course difficile, quoi. Donc, arriver à le piéger sur ça, c'est quasiment infaisable. Je pense qu'il a presque tout testé ce qui est faisable sur le truc un peu difficile, un peu.
Est-ce que lui, il a fait le parcours de la Barclay? Tu sais s'il a déjà participé à proprement parler sur ce tracé-là ou...
Il a pas. Je sais qu'il a fait le tour. Il a fait les tours, hein, ça c'est clair. Mais il n'a pas après participé, non. Il a toujours été. Parce que même après, après il a été avec l'âge, il pouvait plus. À un moment donné, il avait mal à la jambe aussi, donc il était un peu plus handicapé. Donc, il n'a pas tenté sa course, il a toujours été un organisateur. Après, il a fait le tour, évidemment, hein, forcément.
Merci beaucoup, Rémi, pour ce Rémi passionnant et ce retour d'expérience fascinant sur cette mythique course qu'est la Barclay. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de course qui est clairement établi à l'heure où les perspectives semblent s'améliorer et que les courses commencent à refleurir pour notre plus grand bonheur? C'est quand même la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Est-ce que tu en sais un peu plus, toi, sur ton année 2021?
Oui, 2021, alors, du coup, il y a le côté boulot. J'attendais avec impatience que les courses reprennent. Donc, ça va pas tarder. Hein. On va dire que en juin, il va y avoir les premières courses. Et après, en juillet, ça va...
Je serai au Ventoux début juin. C'est une réjouissance, tu peux pas imaginer.
Exactement. Mais j'ai vu le déroulé de la course. Il a prévu plusieurs vagues, des petites vagues de 50. Avec le déconfinement qui se poursuit en juin, tu vas pouvoir ouvrir à 500. Et après, en juillet, à 2500, si j'ai bien lu. Donc moi, je par rapport à moi personnellement, je me vois bien sûrement fin juillet sur l'Ultra Ariège, une course en Ariège, une première édition qui va être assez dure, mais qui va être à suivre. Après, je serai sûrement du côté du Mont-Calme, avec le marathon du Mont-Calme, cher justement à Nahuel, que tu citais dans une émission, la dernière émission en date. Et après, sûrement le GRP, le Grand Raid des Pyrénées, fin août, qui reste sûrement pour moi... Une grosse date sur le calendrier. Et puis un peu plus loin, là reste sûrement la Réunion. Hein. Comme j'aime bien y revenir, je t'en ai parlé au début. Mm-hmm. J'ai commencé à travailler là-bas. J'aime bien y revenir à chaque fois, et comme je connais le parcours par cœur. Donc voilà un peu les ébauches du calendrier à venir.
Est-ce qu'on peut imaginer de voir à nouveau sur la Barclay en 2022?
Et c'est très possible pour la simple
jamais
raison.
Jamais 506,
que...
comme le dit l'adage.
Oui. Oui, en fait, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, et je sais que, et là, tout ce qui écoute, bon, il faut être honnête, avec l'âge, je vais être quand même moins affûté que je ne l'aurais été 10 ans avant, ne serait-ce que 10 ans avant. Mais, comme là, en 2019, ceux qui étaient inscrits, il avait dit qu'il les reprenait, et du coup, tous ceux de 2020 plutôt, comme ça a été annulé pour le Covid, et il nous a rebasculé sur 2021, finalement, 2021, ça n'a pas pu se faire pour les étrangers. Donc, ils nous rebasculent sur 2022. Donc il y aura forcément une possibilité. Alors, à part si je vois que vraiment j'ai du mal à me préparer ou que je suis un peu hors, avec l'âge hors forme, mais logiquement, ça devrait se faire.
À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore réalisé ?
Ouais, il me reste. J'avais dit que j'essaierais de terminer sur ça, en fait, mais bon, je ne veux pas terminer, évidemment. Je veux toujours courir le plus tard possible. Mais sur un côté un peu plus performance ou un côté où il faut vraiment s'arracher, moi, je voyais bien la Badwater que je t'ai citée tout à l'heure. Mm-hmm. Parce que j'ai accompagné un copain toulousain une année qui l'avait arrêté, qui l'avait abandonné. Mais j'en garde souvenir assez frappant et j'aurais bien aimé être sélectionné. C'est pareil, c'est tout un cheminement pour arriver à être sélectionné. Mais j'aurais bien aimé essayer de tenter au moins une fois dans la vallée de la mort, là, essayer de faire la Badwater.
Je te le souhaite en tout cas, Rémi. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une phrase à partager avec nous qui est pour toi une source de motivation et d'inspiration au quotidien et qui exprime ta façon d'appréhender la vie ?
Oui, et du coup, comme je l'écris souvent sur les posts, sur les réseaux, j'aime bien dire toujours tout donner pour ne jamais rien regretter. Et toujours tout donner pour ne rien regretter. Et ça me revient souvent parce qu'en fait, j'aime bien, alors pas que moi, mais j'aime bien quand les gens, quand ils proposent, c'est quand ils parlent d'une course qu'ils ont faite ou d'une aventure qu'ils ont réalisée, au moins qu'ils se donnent à fond, c'est-à-dire qu'ils se préparent comme il faut pour se donner au maximum. Comme ça, tu peux dire, au moins, si t'as pas réussi ou si t'as pas été au bout, si t'as eu un échec, tu relativises, tu te dis au moins j'ai fait tout ce que je pouvais et ça s'est terminé comme ça, mais au moins je ne peux pas regretter parce que je sais que j'ai donné tout ce que je voulais. Et j'aime bien, tu vois, c'est sportif, mais j'aime bien aussi dans tous les domaines que ce soit un peu pareil. Pour, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté dans la vie, il faut pouvoir, tu vois, se rêver haut, on va dire, avoir des bons rêves, mais au moins pour les réaliser, faire tout ce qu'il faut pour y aller, quoi, pour pas avoir à regretter, quoi, tout simplement.
Merci beaucoup pour ce motto de la fin, Rémi. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course incontestablement épique et visiblement très largement à la hauteur de sa légende. Bravo encore à toi pour ton abnégation et ta motivation à repousser chaque année tes limites pour aller déchirer quelques pages supplémentaires des livres présents sur le parcours et plus sérieusement, à relever cet immense défi qu'est celui de la Barclay. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes projets à venir et je te dis à très bientôt et surtout un grand merci de nous avoir fait vivre cette Barclay totalement fascinante.
Merci à toi et puis merci à tout le monde. À très bientôt.
À bientôt, Rémi. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.